Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission des livres et des lires. Quel bonheur de vous retrouver toutes et tous au rendez-vous. On va parler de beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Soyez attentifs. Certes, c'est la semaine du livre commun, mais nous nous permettrons de vous donner quelques idées par rapport aux sorties qui nous font envie, qu'on n'a peut-être pas encore lues, et puis des petits livres aussi qu'on a eu le temps de lire et dont nous vous parlerons également. Bienvenue Françoise Ducret.
Merci Marie, bien contente d'être ici.
Je croyais que vous alliez me dire bienvenue à vous aussi. Merci d'être là Marie. Non, parce que je ne vais pas tout le temps être là, ne croyez pas.
Ah bon?
Non, si, c'est toujours moi. Elle est là, elle
oui.
est belle, elle est puissante.
Au moins.
Elle fait rêver les twittos. C'est Bénédicte Joust. Bonjour Bénédicte.
Marie.
Oui,
Christophe Laurent. Pourquoi je suis à la radio d'après vous?
A quitté sa forêt pour nous rejoindre.
Bonjour Marie, ça va?
Merci d'être visible dans la société de temps en temps. C'est bien de quitter le bayou. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Coup de vent, livre choisi d'ailleurs par Christophe Laurent, de Mark Haskell-Smith, paru chez Gallmeister. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on ne parlait pas de cette maison d'édition que nous aimons beaucoup pourtant. Mais voilà,
pourtant.
Mais oui, on essaie de parler de tout le monde. Et il fut un temps où on parlait beaucoup, beaucoup de Gallmeister. Oui. Et on est passé à autre chose et nous y revenons. À quoi sert de posséder 10 millions de dollars en liquide si, comme Neil Nathanson, on s'est perdu en mer à bord d'un voilier en train de sombrer? Ben oui, à quoi ça sert? Strictement à rien, sauf à en brûler un sac ou deux dans l'espoir fou d'attirer l'attention. Sauvé in extremis, Neil se réveille menotté sur le bateau d'une navigatrice en solitaire, méfiante et bien décidée à entendre son histoire. Neil lui parle alors de Brian, un jeune loup de Wall Street, qui a réussi à détourner un magot conséquent avant de s'enfuir dans les Caraïbes. Bien sûr, la banque qu'il employait a lancé des enquêteurs à sa poursuite. C'est ainsi que Neil, accompagné d'une pro de la finance, la très douée Seo-Yoon, s'est retrouvé chargé de récupérer l'argent. Simplement, ils n'étaient pas les seuls. Coup de vent, ça peut ressembler en fait à un synopsis de film, vous l'avez bien compris, lorsque vous lisez la quatrième de couve. Qui a envie de commencer? Ben vous, puisque vous l'avez choisi, Christophe Laurent.
Volontiers, volontiers. Alors,
c'est très drôle, il y a des scènes complètement ardos, très excitantes, parfois un peu dégoûtantes, mais quand même, quel rythme, que c'est enjoué.
Merci Christophe.
Voilà, merci Christophe.
Non, mais écoutez, moi, quoi dire, Mark Haskell-Smith, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui ne m'a jamais déçu. Bien au contraire, puisque l'année dernière, je pense, il avait sorti une enquête sur le nudisme, une enquête journalistique sur le nudisme qui était parue chez Paulsen et qui était à mourir de rire. C'est-à-dire qu'il était allé aux quatre coins de la planète pour voir comment vivaient les nudistes. Et il avait fait des randonnées nues. Voilà, ça vous fait rire rien qu'en le disant simplement.
Oui, puis on salue l'investissement.
Oui, si vous le lisez. Non, puis il y a des trucs aussi beaucoup plus trash, parce qu'il aimait le trash. Au Cap d'Agde. Donc c'est un auteur qui marie toujours un petit peu le cul, on va le dire, avec l'humour et avec aussi un petit fond de société. Cette fois-ci, il prend l'angle de la finance. C'est pas non plus un livre politique, hein. Je vais pas dire ça. C'est pas un livre politique. Moi, je trouve que c'est un livre d'entertainment. C'est-à-dire, on rigole, on s'amuse, on passe un très très bon moment et c'est bien écrit.
Léger. Attention. Dans le bon sens.
Oui, c'est léger, c'est populaire et c'est de qualité. Je ne vais pas dire que c'est un truc de gare, c'est un truc de base, tout ça, même si j'aime bien les romans de gare, ce n'est pas la question, mais c'est vraiment de très haute qualité, sans une énorme psychologie souvent qu'on retrouve dans le roman noir.
C'est du polar, mais
c'est du polar drôle.
Mais du polar drôle,
voilà,
et déjanté.
Comme le font les Américains, comme le fait maintenant Jackie Schwartzman. Si ceux qui sont venus à Librimont ont dit on rit avec Jackie Schwartzman, ils riront avec Mark Haskell-Smith. Avec ce côté, bon, évidemment, beaucoup plus graveleux, parce que lui, ce qu'il aime, c'est le sexe, hein, c'est rire du sexe, que ce soit l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Il y a des scènes avec un homosexuel. Moi, je m'arrêtais de lire. Je riais comme un débile, hein, mais je le dis franchement.
Extrait.
Plus. Extrait, excusez-moi, là j'ai pas le livre sous la main.
Oui. Extrait.
Parce que il faut dire à tout au lecteur, je l'ai prêté le livre.
Ah ben bah oui.
Prêté.
Ah, voilà. Ben voilà.
J'ai prêté, moi je prête mes livres. Moi.
On ne les rend jamais, comme ça au moins.
Ah bon?
Bah oui.
Alors attendez. Une fois les affaires de son père déblayées et les murs repeints, l'appartement devint propre et confortable. Brian décida d'y passer ses week-ends. L'espace était petit et la chaudière capricieuse, mais c'est un endroit normal. Authentique, comme l'aurait dit son père.
Prenez votre temps. Oui.
Un vrai appartement pour une vraie personne menant une vraie vie. Une personne humble ayant les pieds sur terre. Dans un quartier où les gens fabriquaient et réparaient encore des choses, où ils travaillaient avec leurs mains. tout l'opposé du monde imaginaire et bidon de la finance. Brian ignorait pourquoi il ne s'était jamais senti à l'aise avec les privilèges de la richesse. Peut-être était-ce dû au flot continu de moqueries que déblatérait son père au sujet de la corruption de Wall Street et des gros richards avides qui détruisaient le monde. Être riche ne posait littéralement aucun problème. Pas de vrai problème en tout cas. Mais une parole de son père lui avait toujours semblé juste. Les gens riches sont juste pas très sympas. C'est pas l'extrait le plus drôle.
Qu'est-ce que c'est cet extrait bidon?
Excusez-moi, je vous ai passé le livre il y a un mois, maintenant je me souviens plus où c'est que sont les bons extraits. Par contre, j'ai des bons extraits.
Mais les auditeurs vont nous lâcher, moi j'attendais
non.
un truc.
Non, mais moi j'ai un bon extrait d'un précédent roman, si vous voulez, non?
Non, mais moi je pensais à la séquence de branlette sur le canapé. Alors là, je suis hyper déçu. Hein. Oui, Bénédicte.
Excusez-moi, je l'ai pas souligné.
Oui, bon, moi, je suis moins enthousiaste que Christophe, même si je dois reconnaître que j'ai souvent ri, et on va dire que c'est déjà énorme.
Ne l'auriez-vous pas lu comme moi en coup de vent?
Alors, j'allais dire coup de vent le bien nommé, parce qu'on le lit et on l'oublie aussi vite. Et parfois même on a un peu envie de passer quand même. Hein, faut être tout à fait honnête.
Les pages tournent vite avec le vent.
Surtout que moi, c'est vrai que, comme vous l'avez expliqué, Marie, le livre débute sur la fin, en fait. Et moi, le préambule, je l'ai trouvé fantastique. Et je me suis dit, ah ouais, ça va dépoter, on va rire. C'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment du divertissement. Et ensuite, j'avoue que j'ai trouvé que le long flashback n'était pas à la hauteur finalement de ce préambule, même si je le répète, c'est pas désagréable à lire. Mais les personnages sont très caricaturaux. Alors en soi, pour ce genre de récit, j'allais dire ce n'est pas un problème, parce que vous avez parlé aussi, Marie, du côté cinématographique, enfin ça pourrait être un synopsis de cinéma, et c'est comme quand vous allez voir, vous savez, un bon film de hold-up, bon ben voilà, vous ne vous attendez pas, vous le regardez pas, c'est ça, pour vous instruire sur les méandres de l'âme humaine ou je ne sais quoi, mais là, le problème, c'est qu'on sent que Smith, il a quand même essayé, pour donner un peu d'épaisseur à son roman, de rentrer dans la psychologie des personnages, et ça marche pas du tout. Donc, vous l'avez dit, vous avez le jeune trader Brian Leblanc, dont on nous décrit comme ça l'appartement immaculé, le dressing impeccablement rangé avec des costumes et des chemises parfaitement identiques. Bon, ça, vous l'avez lu et relu chez Bret Easton Ellis ou Jay McInerney. Il y a la jeune asiatique de la finance ultra brillante mais froide, avec des difficultés relationnelles et qui tout d'un coup va découvrir une libido incroyable. Bon, alors Piet, je suis quand même obligée de reconnaître que l'enquêteur nain, généreusement pourvu par la nature, m'a quand même bien fait rire, et qui a quelques dialogues
qui sont
savoureux. Mais si vous voulez, il aurait fallu que ça tienne par l'intrigue, et l'intrigue n'a absolument rien d'original, et c'est même parfois un peu fastidieux, vous voyez, quand il donne les détails sur la finance, etc.
Il y a 17 millions de dollars à récupérer, quoi. C'est tout.
Mais si ce genre de roman ne tient pas sur justement une intrigue qui vous tient un peu en haleine, la fin, bon, elle n'est pas franchement crédible. Bon, tous les petits dessins, je ne comprends pas l'intérêt. Des petits dessins comme ça au milieu, bon, je ne sais pas ce que ça vient faire là.
Mais c'est toujours les mêmes, il y a le cochon, le canapé, le hibou qui reviennent souvent.
Ça
sert à rien. Après, c'est vrai que la qualité de Smith, c'est que c'est sans prétention. Il prétend pas faire autre chose. Mais on reste quand même un peu sur sa fin. Mais je le répète, pour quelques dialogues, pour Piet le nain, ça peut valoir le coup.
Il y a la scène sur le bateau, quand il prend le bateau et que l'autre, ils sont avec le capitaine, ils se roulent un joint et que le capitaine lui raconte que son second est un gigolo.
Ah oui, il y a quand même quelques très jolies scènes, des scènes très drôles.
Ça s'appelle Coup de vent, c'est signé Mark Haskell Smith, c'est chez Gallmeister, extrait tout de suite. Bouchez les oreilles de vos enfants, on va dire jusqu'à l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Oui, 12 ans, on commence un peu à se... 12 ans, c'est bon, ils peuvent écouter. Seo-Yoon était à quatre pattes sur la banquette arrière, la jupe relevée, la culotte enroulée autour du mollet. Derrière elle, Piet avait le pantalon sur les chevilles et lui tenait les hanches en donnant des grands coups de bassin. Elle n'avait jamais... Je vais prendre un ton normal, non ? Elle n'avait jamais fait l'amour en extérieur. La tension sexuelle était si intense qu'elle avait suggéré qu'il se gare.
Ah ben oui, oui parce que c'était plus difficile.
C'est très drôle quand même.
Je pense pas que ce soit vraiment j'ai pas dans fini. Le but d'être drôle.
Ah si, c'est ah, si, oui. Ah oui.
Je pense que c'est une maladresse.
Non. Non, parce que c'est très drôle, non. Piette avait déniché une sorte d'impasse envahie par la végétation. Puis ils s'étaient débarrassés de leurs chaussures avant de grimper sur la banquette arrière. Ils avaient laissé les portières ouvertes pour que Seo-yoon sente la lumière du soleil sur son visage et l'air des tropiques sur sa peau. C'était tellement agréable, comme un joli pique-nique. Encore ces choses simples qui lui avaient tant manqué. Elle passa sa main à l'intérieur de son soutien-gorge et se pinça le sein. Ça la fit jouir.
Oui,
voilà. Mais la chance
non, mais quelle chance que je aussi.
C'est systématique, hein, dès qu'elle
essayez, Françoise, Françoise essayez.
La prochaine fois, oui, j'essaie.
Françoise, qu'en avez-vous pensé?
Bah, moi, je suis un peu comme Bénédicte, c'est-à-dire que...
c'est coincé, les filles.
C'est non, pas du tout. Non, c'est pas
moi,
ça.
Christophe.
C'est pas ça.
Pourquoi?
Ah bon?
La banquette,
moi, le canapé, bon, enfin bref.
Allez-y.
Non, en fait, moi, j'ai trouvé ça aussi une accumulation de choses déjà vues au cinéma, relues, le trader qui vole sa banque, le resto à sushi où mangent les traders, le bateau à la dérive, oui, mais les billets de banque ne peuvent pas te sauver. La fille autiste surdouée en finance, ouais. Les costumes hors de prix, le guet, voilà. Ouais. Toute cette accumulation fait que bon bof, cette histoire de bateau, bon, on l'a déjà vu et lu, tout ça. Et c'est vrai que c'est, je pense, complètement burlesque. C'est là qu'est peut-être l'intérêt de ce livre et que ça ressemble.
C'est pour cette raison que les profils sont très surlignés, exagérés.
On est dans la caricature.
Et oui, dans la caricature.
Oui, mais bon, moi, ça ne me réjouit pas forcément. Et du coup, c'est vrai qu'on pense un peu à Tarantino, peut-être.
Ah non,
ces personnages très, très caricaturaux. Non, c'est pas ça, Tarantino. Enfin, moi, je voyais un peu comme ça.
Mais pourquoi? Elle dit pas de bêtises, là, François.
Moi, je trouve.
Mais c'est Tarantino, non?
Bon.
Tarantino,
enfin bon,
dans,
ça va vite.
Dans les grands dialogues, dans l'action, dans le,
oui, mais
dans
des,
dans le genre.
Il est dans les personnages
dans ce,
poussés à leur
genre.
Extrême.
Voilà, c'est un peu dans
oui,
ce
les
genre.
Personnages outrés.
Dans voilà, le, dans le trait, voilà. Un peu de sexe, de violence, tout ça. Donc c'est vrai que, bon, voilà. Et puis le cul, c'est vrai que c'est rigolo. Hein, mais après, ça devient un peu indigeste parce que c'est à toutes les lignes. Alors c'est pas une question, pas que je sois bégueule. Mais bon, disons que c'est écrit un peu à la truelle. Et bon, c'est ça aussi qui est un peu difficile.
Bon, voilà, belle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Moi, j'en veux pas. Voilà.
Non, pas mauvaise pioche.
Non. Pour qui aime.
Moi, je voudrais
c'est parce qu'elle aime.
Je voudrais noter quelque chose, c'est que ça, c'est encore un des auteurs qui est parti de chez Rivage,
ouais.
Qui a fait les beaux jours de Rivage pendant des années, pour pas dire pendant au moins une bonne décennie, et qui, comme James Carlos Blake, se retrouve chez Gallmeister. Tant mieux pour Gallmeister.
Mais pourquoi
ça fait beaucoup de peine pour Rivage.
Tant pis. Mais et pourquoi ce départ? Parce que c'était une question de ligne éditoriale
ben
ou j'ai vu François Guérif
ben, vous savez tout très bien que Rivage a été racheté par Actes Sud.
Ouais.
Apparemment, Actes Sud a des priorités qui sont peut-être pas forcément la littérature, excusez-moi de le dire. Du coup, il y a beaucoup d'auteurs qui ne se retrouvent peut-être un peu mis de côté,
ouais.
Ou avec une politique éditoriale qui a changé. Et
est-ce que le traducteur Guérif,
c'est le fils de François Guérif. François Guérif travaille pour Gallmeister aussi.
Ah voilà, mais ils étaient chez Rivage avant, non?
Bien sûr, c'est le créateur de Rivage.
On va quand même dire à nos auditeurs que même si parfois c'est extrêmement grossier, voire vulgaire. Il faut
c'est
quand
pas
même
grossier, c'est
moi, presque là que je trouve le plus drôle quand voilà. Il est dans l'outrance sexuelle.
C'est tellement outrancier que c'est quand même très drôle. Je ne peux pas lire ce passage. Je m'en excuse
drôle,
parce que bien sûr, je vous mets l'eau à la bouche sans pouvoir aller jusqu'au bout.
Jusqu'au fond des choses et finir
cette étreinte
comme le
avec
fait,
vous.
La coréenne d'ailleurs.
Voilà, chers auditeurs. Mais quand même, à la page 110, si vous procurez ce livre, Coup de vent de Mark Haskell Smith, vous allez beaucoup, beaucoup rire avec une scène de sexe qui est mais vraiment à se rouler par terre de rire, où on évite l'accident, mais alors vraiment à très peu de choses. C'est chez Gallmeister. Moi, je le conseille, allez. On le conseille quand même.
Oui, ça peut être un bon divertissement. Ouais. Bon, voilà,
c'est ça qu'on cherche quand on est lecteur. C'est aussi des moments où on est.
Oui, mais on s'emmerde un peu quand même.
Attendez, il y a quand même un type qui menace tout le monde avec un harpon, quoi.
Sur la réserve, c'est qu'on n'est pas constamment tenu par un suspect. Non,
et qui risque sa vie à chaque fois qu'il pratique un acte sexuel. C'est quand même. Non, mais. C'est vrai.
Et lisez aussi les autres Mark Haskell Smith parce que c'est très bon.
Lequel, par exemple?
Par exemple, Salty qui a des scènes, notamment ça se passe en Thaïlande. Ouais. Et là, il y a un petit fond sur le tourisme, sur les occidentaux qui vont en Asie du Sud-Est. Et c'est aussi très drôle, Salty. Et donc l'enquête au pays des nudistes.
Allez, moi, je vous parle d'un petit livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Statut particulier », avec S à statut et S à particulier entre parenthèses. C'est signé Paul Tourqui-Douriagne. Et c'est un petit livre, j'avais plein d'a priori négatifs, disons-le franchement, parce que je me suis dit, est-ce que ça fait une œuvre littéraire lorsqu'on poste des statuts Facebook et qu'on les...
Ah, c'est de ça dont il s'agit.
C'est de ça dont il s'agit. Et qu'on prend tous ces statuts depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, sur 10 années, et qu'on les relit dans un ouvrage. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, on sait qu'il y a eu des livres SMS ou encore des livres épistolaires par mail. On se souvient, par exemple, de Marie Ferranti avec... Jean-Guy Talamone, merci. Et puis, des livres très célèbres qui ont été très bien vendus, qui ont été écrits de cette manière. Eh bien, figurez-vous que ça fonctionne très bien. Parce qu'on le prend comme un almanach. Comme ça démarre en 2009, qu'elle est date à chaque fois, en haut de chaque article, on a vraiment l'impression de passer 10 ans avec Paul Tourqui-Douriagne à travers les saisons, à travers les fêtes païennes ou religieuses, à travers ce qui se passe dans la vie en Corse et ailleurs, et notamment à Bastia, une ville qu'il chérit, qu'il aime beaucoup. Et je vous assure, ce statut particulier vaut le détour. Vraiment, vraiment, allez-y, parce que c'est très drôle, très très drôle. On sent... Alors, c'est Realita, ils ont créé une maison d'édition, donc on espère qu'il y aura d'autres livres derrière. Et franchement, ça vaut le coup, parce qu'on sent que ce garçon adore écrire, qu'il s'amuse beaucoup lorsqu'il écrit. Et alors, il nous a confié à ce micro qu'il ne se relisait jamais. Ben, ça paraît curieux, il a beaucoup d'imagination. Si vous voulez, je vous lis un petit passage au hasard. Peut-être pas la critique sur Orphelin de Dieu de Marco Biancarelli, puisque c'était à l'époque où Paul Tourqui-Douriagne avait descendu des livres et des lires, parce qu'on avait moins aimé que les précédents de Marc Biancarelli. Bien que nous apprécions beaucoup.
Mais c'était pas sur Orphelin de Dieu. Oui.
Non, c'est pas sur Orphelin de Dieu, c'est vrai. Parce qu'on a beaucoup aimé Orphelin de Dieu. C'était sur Massacre des Innocents. Vous voulez un petit extrait ou vous en fichez? Est-ce que ça vous intéresse ou pas?
Ça nous intéresse.
Ah oui, mais alors je sais pas au hasard ce que je peux vous prendre. Ça démarre comme ça, ça j'aime bien, c'est une petite phrase. Étrangement, alors, nous sommes le 25 décembre 2009. Ça s'appelle Hier, aujourd'hui et demain. Étrangement, on ne saurait dire pourquoi, le monde ce matin est tel qu'il était hier avant minuit. Voilà, ça démarre comme ça, c'est très bien. Et puis après, il y a des longs textes, évidemment. Donc là, j'ai Orphelin de Dieu, mais j'en ai plein d'autres. Je sais pas quoi vous lire pour pas le. Alors la préface est signée Gilles Herligne, et je sais que vous l'aimez bien, vous, Gilles Herligne.
J'adore.
Pourquoi vous l'adorez?
Parce que c'est un mec cool.
Et qu'est-ce qu'il faut lire de Gilles Herligne?
Il vient de sortir un livre.
Ce qu'il faut lire, c'était son histoire de petit bonhomme là qui. C'était un roman noir qui est sorti il y a 4 ans. J'ai plus le titre, c'était un nom continental et c'était vraiment très très bon. Très très bon, mais je ne me rappelle plus du tout du titre. Là, vous me prenez au dépourvu.
16 octobre 2014, donc extrait de statut particulier. J'ai lu le dernier Biancarelli, on y va, hein, parce qu'en fait j'ai pas les autres pages.
Finalement.
J'ai lu le dernier Biancarelli, j'ai longtemps hésité. Non pas que je doutais de la qualité de l'œuvre, mais le plébiscite unanime a tendance à me refroidir. C'est présomptueux, un brin orgueilleux, c'est possible et je m'en fous. J'ai horreur de suivre les joueurs de flûte qui ont tendance à nous noyer sous le miel écœurant de leur guimauve intellectuelle abondante. Cette attitude peut jouer des tours, c'est le cas ici. J'ai donc lu Orphelin de Dieu, j'ai ouvert le feu de cette lecture avec des a priori.
Ah non, c'est Orphelin de Dieu alors.
Oui, trop grite, c'est ce que je vous disais.
Mais Orphelin de Dieu, on ne l'avait pas...
C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, Françoise. On a dit que ce n'était pas Orphelin de Dieu, c'était Massacre des Innocents. Je poursuis. Les histoires de vengeance familiale à la Mérimée, version moderne, les westerns, la culture américaine et le style. Hélice ou Panunique, etc. J'ai été bien con. J'ai fait ce que tout lecteur sait qu'il ne doit pas faire. J'ai lu des critiques avant de lire le bouquin et j'en ai été pour mes frais. Biancarelli nous a bien eu, moi le premier. Il cache sous sa narration principale, à laquelle bien des lecteurs consommateurs sont arrêtés, une question profonde qui semble semble le hanter et si nous étions les oubliés de l'histoire. Voilà. Et donc vous avez comme ça des textes, il parle aussi d'Halloween ou encore de la fête de Pâques, il parle des supermarchés implantés en Corse, notamment sur des sites préhistoriques, ça l'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne pratique pas la langue de bois. Il est ouvert à la critique parce qu'il répond à tous les gens qui lui écrivent sur les réseaux sociaux et sur Facebook, ce qui est énorme. Ouais. Donc c'est chronophage. C'est un garçon qui est sur son ordinateur 6 à 8 heures par jour en train d'écrire ou de répondre aux intervenants. Donc allez-y, statut particulier, moi je vous le conseille. Je vous en prie, Françoise.
Oui, bah, je voulais parler d'un livre dont on avait déjà parlé ici, Bartolomeo in Christ, ou de Stéphane Ucces, Harry, qui a obtenu le prix de la collectivité de Corse 2018. Et un spectacle avait été monté à partir de ce livre, vous vous rappelez, à la Fabrique de Théâtre. Et bien là, le spectacle revient au Théâtre de Bastia. Dans le courant de l'année, je n'ai plus les dates, mais donc je...
Et à l'ADI à Ajaccio également.
Voilà, donc je vous incite à aller, parce que c'est une très belle langue, qui a l'intérêt aussi d'être lue, là, et donc on peut écouter avec une musique merveilleuse
en lecture théâtrale.
De Pierre Savaly, ouais.
Oui, Christophe Laurent. À propos de lecture, tout ça, je voulais signaler, c'est sur France Culture, on a le droit de parler de France
Bien
Culture.
Bien sûr, au contraire.
Ouais, ça fait un peu un télo, tout ça. Mais Stéphane Michaka, Stéphane Michaka, qui est un auteur extraordinaire, qui avait écrit La fille de Carnegie, qui était parue chez Rivage il y a une dizaine d'années, qui est un polar incroyable, qui se passe à New York pour un Français, c'était absolument génial. Donc Stéphane Michaka, que j'adore, va faire une lecture théâtralisée de Moby Dick. Ça a déjà eu lieu à la Maison de la Radio, ça a été enregistré et ça passe le 26 octobre à 21h sur France Culture.
Génial.
Ah oui, c'est génial.
Et puis à la limite, vous savez, c'est comme des livres et des lires. Hein. Si vous ne pouvez pas à ce moment-là, vous podcaster les émissions. D'ailleurs, à ce sujet, on va remercier Bernard qui nous a écrit.
De Bibliosurf, c'est l'émission Bibliosurf, qui collectionne tous les podcasts de Délivre et Délire. Wow. Pas seulement, hein. tous les podcasts de toutes les émissions de littérature dans l'Hexagone.
Coucou Bernard, merci.
Merci Bernard.
Merci de nous podcaster. Bénédicte, vous aviez envie de nous parler.
Alors je suis en cours de lecture, hein, parce que voilà, c'est une proposition, parce qu'on parle beaucoup de Joyce Carol Oates pour son fameux roman dont vous avez déjà parlé.
Christophe en avait parlé.
Un livre de martyr américain, mais en même temps, et son rendement est décidément saisissant. Oui. Voilà. Et en même temps, elle a publié un recueil de nouvelles.
C'est fou.
Donc là, ce sont 6 nouvelles. J'en ai lu 3 que j'ai trouvées formidables. Alors, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de Shirley Jackson.
Bien sûr que je m'en souviens.
Voilà, de la loterie et de ses autres contes noirs. Qu'est-ce qu'il y a ?
Il est trop content de s'en souvenir.
Oui.
Parce que, les auditeurs, Christophe Laurent, il oublie tout. Il ne sait même pas. Que le samedi à 11h, il y a l'émission, c'est vous dire. Des fois, on est obligé de le chercher à la maison, il est sous la couette. Poursuivez.
Et donc, je vous avais parlé de cette Shirley Jackson, et je trouve que là, avec ses nouvelles, Haute, si vous voulez, en est la digne héritière. Parce que vous n'avez, parce que ça s'appelle donc Le Maître des Poupées et autres histoires terrifiantes. Donc, vous n'avez rien de spectaculaire, vous n'avez pas de monstre ou de maison hantée. Non, elle nous dit que l'horreur est juste là, à côté de nous. Et finalement, il n'y a rien de plus effrayant que ça. Donc elle plonge dans les perversions, dans les déviances de l'individu. Je trouve comme peu d'auteurs savent le faire. Alors je le répète, je ne les ai pas toutes lues, mais au moins pour 3 d'entre elles, on a une narration en plus qui est à la première personne du singulier. Et donc le lecteur, si vous voulez, est comme prisonnier de cette conscience, et ça met extrêmement mal à l'aise parce qu'au début, forcément, ça suscite l'empathie. Et puis tout d'un coup, il va avoir une petite remarque où il va dire quelque chose de quelqu'un. On va sentir là, à un moment donné, une sorte de dérèglement, de dysfonctionnement, et on commence à être mal à l'aise. Parce qu'on se dit, oui, depuis le début, ce que je lis, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est du pur fantasme? On sent que quelque chose ne va pas. Et là, tout d'un coup, la réalité vous échappe. Et moi, j'aime parce que c'est extrêmement insidieux, et vous êtes constamment dans une position très inconfortable. Donc ça, moi, je trouve qu'en plus, voilà, elle raconte le traumatisme, si vous voulez, intime comme personne. Mmh. Et en même temps, elle l'utilise souvent pour nous dire aussi les dysfonctionnements d'un pays. Parce qu'à un moment donné, il y en a une. Voilà,
Tous ses livres, c'est formidable. Elle a tissé une œuvre formidable.
Elle est
fascinante. Et on regrette encore que cette année encore, elle ait raté le prix Nobel.
Je le lui donne.
Ouais.
Ah bah là, mais pour qui elle se prend, Bénédicte?
Ouais, ouais.
D'un coup.
Elle se prend un melon, là.
On a pensé à ce prix Nobel au même moment.
Voilà. Elle délivre des prix Nobel.
Vous mangez à peine des crisprolles le matin, vous croyez que ça suffit?
Donc on révèle qu'elle a raté cette année.
Et oui, elle l'a raté cette année.
L'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk et l'auteur autrichien Peter Handke ont été récompensés cette année et ont reçu le prix Nobel. Petite collection.
Et du coup, voilà, comme on parle de nouvelles, parce que moi j'adore les nouvelles, je voulais signaler que la table ronde sortait donc une nouvelle collection qui s'appelle...
On est perturbés aujourd'hui. On parle de beaucoup de choses.
Ouh, ça va pas.
Alors, c'est une collection qui est très jolie en plus, de nouvelles inédites, qui s'appelle La Non-Pareille. Alors, là où le nom...
En déco sur ma table basse.
La Non-Pareille, non. C'est le nom quand même, il faut le savoir, c'est le nom donné à l'un des plus petits corps typographiques.
Oh.
Et donc là, c'est la table ronde qui publie ça. Les trois premières nouvelles sont d'Eduardo Alphone, dont j'avais déjà parlé, que j'aime beaucoup, Sylvia Plasse et Emma Klein. Donc trois jolies...
Attendez, mais Emma Klein, on la connaît.
Elle avait écrit son premier roman, j'en ai parlé aussi.
C'est ça.
Girls.
Ouais, c'est ça.
Oh oui,
on avait adoré Girls.
Je m'en souviens aussi.
Je suis flattée. Hein.
Très bien, on va annuler le rendez-vous chez le neuro.
Voilà, donc là, ce sont les trois premières nouvelles qui sortent dans cette collection. Et voilà,
je tenais à le souligner. C'est trop
parce
chouette,
que c'est très très beau et en plus c'est de qualité, c'est-à-dire qu'on choisit de bons auteurs. Hein. Donc j'ai lu celle d'Emma Klein et j'ai beaucoup aimé.
Elle ne veut pas me donner, ça fait 2 heures que je tends le bras. Donc Emma McLean, Los Angeles, et puis Eduardo Alphone.
Faites tourner, s'il vous plaît.
Boy, c'est trop beau. La Non-Pareille, c'est vraiment chouette, ça. Merci de nous avoir conseillé cette nouvelle petite collection. Très, très beau.
Je vous en prie.
Je vous dis à la semaine prochaine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sapiens, Jean-Michel Fraticelli et Fabrice Fenouillère. À la semaine prochaine, nous vous parlerons, me semble-t-il, de l'agence de Mike Nichol à la série noire, de la maison d'Emma Becker chez Flammarion et de Rien
n'est noir.
N'est noir de Claire Berest chez Stock.
Yes.
Au revoir à tous. Et merci à Alicia qui réalisait cette émission. Ciao, ciao.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café, que j'aime ta couleur café. Café, que j'aime ta couleur café.